Chapitre 3. Paris, rue d'Enfer, fin juillet 1832. Madame la duchesse de Berry descend en Provence et arrive dans la Vendée. Madame la duchesse de Berry n'a pas eu plus tôt sanctionné la mesure des 12 000 francs qu'elle s'est embarquée pour sa fameuse aventure. Le soulèvement de Marseille a manqué. Il ne restait plus qu'à tenter l'Ouest. Mais la gloire vendéenne est une gloire à part. Elle vivra dans nos fastes. Toutefois, les 3/4 et demi de la France ont choisi une autre gloire, objet de jalousie ou d'antipathie. La Vendée est une oriflamme, vénérée et admirée dans le trésor de Saint-Denis, sous laquelle désormais la jeunesse et l'avenir ne se rangeront plus. Madame, débarquée comme Bonaparte sur la côte de Provence, n'a pas vu le drapeau blanc voler de clocher en clocher. Trompée dans son attente, elle s'est trouvée presque seule à terre avec M. de Bourmont. Le maréchal voulait lui faire repasser sur-le-champ la frontière. Elle a demandé la nuit pour y penser. Elle a bien dormi parmi les rochers au bruit de la mer. Le matin, en se réveillant, elle a trouvé un noble songe dans sa pensée. « Puisque je suis sur le sol de la France, je ne m'en irai pas. Partons pour la Vendée. » M. de, averti par un homme fidèle, l'a prise dans sa voiture comme sa femme, a traversé avec elle toute la France et est venue la déposer à... Elle est demeurée quelque temps dans un château, sans être reconnue de personne, excepté du curé du lieu. Le maréchal Bourmont doit la rejoindre en Vendée par une autre route. Instruit de tout cela à Paris, il nous était facile de prévoir le résultat. L'entreprise a pour la cause royaliste un autre inconvénient. Elle va découvrir la faiblesse de cette cause et dissiper les illusions. Si Madame ne fût point descendue dans la Vendée, la France aurait toujours cru qu'il y avait dans l'Ouest un camp royaliste au repos, comme je l'appelais. Mais enfin, il restait encore un moyen de sauver Madame et de jeter un nouveau voile sur la vérité. Il fallait que la princesse partît immédiatement. Arrivée à ses risques et périls, comme un brave général qui vient passer son armée en revue, tempérer son impatience et son ardeur, elle aurait déclaré être accourue pour dire à ses soldats que le moment d'agir n'était point encore favorable, qu'elle reviendrait se mettre à leur tête quand l'occasion l'appellerait. Madame aurait du moins montré une fois un Bourbon aux Vendéens, les ombres des Catelino, des Delbé, des Bonchamps, des La Roche-Jacquelin, des Charette, se fût-ce réjoui. Notre comité s'est rassemblé. Tandis que nous discourions, arrive de Nantes un capitaine qui nous apprend le lieu habité par l'héroïne. Le capitaine est un beau jeune homme, brave comme un marin, original comme un breton. Il désapprouvait l'entreprise. Il la trouvait insensée. Mais il disait « Si madame ne s'en va pas, il s'agit de mourir et voilà tout. Et puis, messieurs du conseil, faites pendre Walter Scott, car c'est lui qui est le vrai coupable. » Je fus d'avis d'écrire notre sentiment à la princesse. M. Berryer, se disposant à aller plaider un procès à Quimper, s'est généreusement proposé pour porter la lettre et voir madame s'il le pouvait. Quand il a fallu rédiger le billet, personne ne se souciait de l'écrire. Je m'en suis chargé. Notre messager est parti et nous avons attendu l'événement. J'ai bientôt reçu par la poste le billet suivant qui n'avait point été cacheté et qui, sans doute, avait passé sous les yeux de l'autorité. Angoulême, 7 juin. Monsieur le Vicomte, j'avais reçu et transmis votre lettre de vendredi dernier lorsque, dans la journée de dimanche, le préfet de Loire inférieure m'a fait inviter à quitter la ville de Nantes. J'étais en route et aux portes d'Angoulême. Je viens d'être conduit devant le préfet qui m'a notifié un ordre de Monsieur de Montalivet qui prescrit de me reconduire à Nantes sous l'escorte de la gendarmerie. Depuis mon départ de Nantes, le département de la Loire inférieure est mis en état de siège. Par ce transport tout illégal, on me soumet donc aux lois d'exception. J'écris au ministre pour lui demander de me faire appeler à Paris. Il a ma lettre par ce même courrier. Le but de mon voyage à Nantes paraît être tout à fait mal interprété. Jugez dans votre prudence si vous jugeriez convenable d'en parler au ministre. Je vous demande pardon de vous faire cette demande, mais je ne peux l'adresser qu'à vous. Croyez, je vous prie, monsieur le vicomte, à mon vieil et sincère attachement, comme à mon profond respect. Votre tout dévoué serviteur, Berryer, fils. Post-scriptum, il n'y a pas un moment à perdre si vous voulez bien voir le ministre. Je me rends à Tours, où ces nouveaux ordres me trouveront encore dans la journée de dimanche. Il peut les transmettre, ou par le télégraphe, ou par estafette. J'ai fait connaître à M. Berryer par cette réponse le parti que j'avais pris. Paris, 10 juin 1832. J'ai reçu, monsieur, votre lettre datée d'Angoulême le 7 de ce mois. Il était trop tard pour que je visse M. le ministre de l'Intérieur comme vous le désiriez. Mais je lui ai écrit immédiatement, en lui faisant passer votre propre lettre incluse dans la mienne. J'espère que la méprise qui a occasionné votre arrestation sera bientôt reconnue et que vous serez rendu à la liberté et à vos amis, au nombre desquels je vous prie de me compter. 1000 compliments empressés et nouvelle assurance de mon entier et sincère dévouement. Chateaubriand. Voici ma lettre au ministre de l'Intérieur. Paris, ce 9 juin 1832. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je reçois à l'instant la lettre ci incluse. Comme il est vraisemblable que je ne pourrai parvenir jusqu'à vous aussi promptement que le désire M. Berryer, je prends le parti de vous envoyer sa lettre. Sa réclamation me semble juste. Il sera aussi innocent à Paris comme à Nantes, et à Nantes comme à Paris. C'est ce que l'autorité reconnaîtra, et elle évitera, en faisant droit à la réclamation de M. Berryer, de donner à la loi un effet rétroactif. J'ose tout espérer, monsieur le comte, de votre impartialité. J'ai l'honneur d'être, etc., etc. Chateaubriand. Chapitre 4. Paris, rue d'Enfer, fin juillet 1832. Mon arrestation. Un de mes vieux amis, M. Frizel, anglais, venait de perdre à Passy sa fille unique, âgée de 17 ans. J'étais allé le 19 juin à l'enterrement de la pauvre Elisa, dont la jolie Madame Delserre terminait le portrait quand la mort y mit le dernier coup de pinceau. Revenu dans ma solitude, rue d'Enfer, je m'étais couché plein de ces mélancoliques pensées qui naissent de l'association de la jeunesse, de la beauté et de la tombe. Le 20 juin, à 4 heures du matin, Baptiste, à mon service depuis longtemps, entre dans ma chambre, s'approche de mon lit et me dit « Monsieur, la cour est pleine d'hommes qui se sont placés à toutes les portes après avoir forcé des brosses à ouvrir la porte cochère. Et voilà 3 messieurs qui veulent vous parler. » Comme il achevait ces mots, les messieurs entrent, et le chef, s'approchant très poliment de mon lit, me déclare qu'il a ordre de m'arrêter et de me mener à la préfecture de police. Je lui demandai si le soleil était levé, ce qu'exigeait la loi, et s'il était porteur d'un ordre légal. Il ne me répondit rien sur le soleil, mais il m'exhiba la signification suivante. Copie. Préfecture de police. De par le roi, nous, conseillers d'État, préfets de police, vu les renseignements à nous parvenus, en vertu de l'article 10 du Code d'instruction criminelle, requérons le commissaire de police, ou autre en cas d'empêchement, de se transporter chez M. le vicomte de Chateaubriand, et partout où besoin sera, prévenu de complot contre la sûreté de l'État, à l'effet d'y rechercher et saisir tout papier, correspondance, écrit, contenant des provocations à des crimes et délits contre la paix publique ou susceptibles d'examen, ainsi que tous objets séditieux ou armes dont il serait détenteur. Tandis que je lisais la déclaration du grand complot contre la sûreté de l'État, dont moi, chétif, j'étais prévenu, le capitaine Desmouchards dit à ses subordonnés « Messieurs, faites votre devoir ». Le devoir de ces messieurs était d'ouvrir toutes les armoires, de fouiller toutes les poches, de se saisir de tout papier, lettres et documents, de lire isseux, si faire se pouvait, et de découvrir toutes armes, comme il appert, au terme du susdit mandat. après lecture prise de la pièce, m'adressant au respectable chef de ces voleurs d'hommes et de liberté, « Vous savez, monsieur, que je ne reconnais point votre gouvernement, que je proteste contre la violence que vous me faites. Mais comme je ne suis pas le plus fort et que je n'ai nulle envie de me colter avec vous, je vais me lever et vous suivre. Donnez-vous, je vous prie, la peine de vous asseoir. » Je m'habillai, et sans rien prendre avec moi, je dis au vénérable commissaire, « Monsieur, je suis à vos ordres, allons-nous à pied ?»« Non, monsieur, j'ai eu soin de vous amener un fiacre. » »« Vous avez bien de la bonté, monsieur, partons, mais souffrez que j'aille dire adieu à madame de Chateaubriand. Me permettez-vous d'entrer seul dans la chambre de ma femme ?»« Monsieur, je vous accompagnerai jusqu'à la porte et je vous attendrai. » »« Très bien, monsieur. » Et nous descendîmes. Partout sur mon chemin, je trouvais ces sentinelles. On avait posé une vedette jusque sur le boulevard à une petite porte qui s'ouvre à l'extrémité de mon jardin. Je dis au chef, « Ces précautions-là étaient très inutiles. Je n'ai pas la moindre envie de vous fuir et de m'échapper. » Les messieurs avaient bousculé mes papiers, mais n'avaient rien pris. Mon grand sabre de mamelouk fixa leur attention. Ils se parlèrent tout bas et finirent par laisser l'arme sous un tas d'in-folio poudreux au milieu desquels elle gisait avec un crucifix de bois jaune que j'avais apporté de la Terre Sainte. Cette pantomime m'aurait presque donné envie de rire, mais j'étais cruellement tourmenté pour madame de Chateaubriand. Quiconque la connaît, connaît aussi la tendresse qu'elle me porte, ses frayeurs, la vivacité de son imagination et le misérable état de sa santé. Cette descente de la police et mon enlèvement pouvaient lui faire un mal affreux. Elle avait déjà entendu quelques bruits et je la trouvais assise dans son lit, écoutant tout effrayée lorsque j'entrais dans sa chambre à une heure si extraordinaire. « Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-elle. « Êtes-vous malade ? Ah, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il lui prit un tremblement. Je l'embrassai, ayant peine à retenir mes larmes, et je lui dis, « Ce n'est rien. On m'envoie chercher pour faire ma déclaration comme témoin dans une affaire relative à un procès de presse. Dans quelques heures, tout sera fini, et je vais revenir déjeuner avec vous. » Le mouchard était resté à la porte ouverte. Il voyait cette scène. Et je lui dis, en allant me remettre entre ses mains, « Vous voyez, monsieur, l'effet de votre visite un peu matinale. » Je traversai la cour avec mes recors. Trois d'entre eux montèrent avec moi dans le fiacre. Le reste de l'escouade accompagnait à pied la capture et nous arrivâmes sans encombre dans la cour de la préfecture de police. Le geôlier qui devait me mettre en souricière n'était pas levé. On le réveilla en frappant à son guichet et il alla préparer mon gîte. Tandis qu'il s'occupait de son œuvre, je me promenais dans la cour de long en large avec le sieur Léoto qui me gardait. Il causait et me disait amicalement, car il était très honnête, « Monsieur le vicomte, j'ai bien l'honneur de vous remettre. Je vous ai présenté les armes plusieurs fois lorsque vous étiez ministre et que vous veniez chez le roi. Je servais dans les gardes du corps. Mais que voulez-vous ? On a une femme, des enfants. Il faut vivre. « Vous avez raison, monsieur Léoto. Combien ça vous rapporte-t-il »« Ah, monsieur le vicomte, c'est selon les captures. Il y a des gratifications tantôt bien, tantôt mal, comme à la guerre. » Pendant ma promenade, je voyais rentrer les mouchards dans différents déguisements comme des masques le mercredi des cendres à la descente de la courtille. Ils venaient rendre compte des faits et gestes de la nuit. Les uns étaient habillés en marchand de salade, en crieur des rues, en charbonnier, en fort de la halle, en marchand de vieux habits, en chiffonnier, en joueur d'orgue. Les autres étaient coiffés de perruques sous lesquelles paraissaient des cheveux d'une autre couleur. Les autres avaient barbe, moustaches et favoris postiches. Les autres traînaient les jambes comme de respectables invalides et portaient un éclatant ruban rouge à leur boutonnière. Ils s'enfonçaient dans une petite cour et bientôt revenaient sous d'autres costumes, sans moustache, sans barbe, sans favoris, sans perruque, sans hotte, sans jambes de bois, sans bras en écharpe. Tous ces oiseaux du lever de l'aurore de la police s'envolaient et disparaissait avec le jour grandissant. Mon logis étant prêt, le geôlier vint nous avertir, et M. Léoto, chapeau bas, me conduisit jusqu'à la porte de l'honnête demeure, et me dit, en me laissant aux mains du geôlier et de ses aides, « Monsieur le vicomte, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Au plaisir de vous revoir. » La porte d'entrée se referma sur moi. Précédé du geôlier qui tenait les clefs et de ses deux garçons qui me suivaient pour m'empêcher de rebrousser chemin, j'arrivai par un étroit escalier au deuxième étage. Un petit corridor noir me conduisit à une porte. Le guichetier l'ouvrit. J'entrai après lui dans ma case. Il me demanda si je n'avais besoin de rien. Je lui répondis que je déjeunerais dans une heure. Il m'avertit qu'il y avait un café et un restaurateur qui fournissaient aux prisonniers tout ce qu'ils désiraient pour leur argent. Je priai mon gardien de me faire apporter du thé et, s'il le pouvait, de l'eau chaude et froide et des serviettes. Je lui donnai 20 francs d'avance. Il se retira respectueusement en me promettant de revenir. Resté seul, je fis l'inspection de mon bouge. Il était un peu plus long que large, et sa hauteur pouvait être de 7 à 8 pieds. Les cloisons, tachées et nues, étaient barbouillées de la prose et des vers de mes devanciers, et surtout du griffonnage d'une femme qui disait force injure au juste milieu. Un grabat à drap sale occupait la moitié de ma loge. Une planche, supportée par 2 tasseaux, placée contre le mur, à 2 pieds au-dessus du grabat, servait d'armoire au linge, aux bottes et aux souliers des détenus. Une chaise et un meuble infâme composaient le reste de l'ameublement. Mon fidèle gardien m'apporta les serviettes et les cruches d'eau que je lui avais demandées. Je le suppliai d'ôter du lit les draps sales, la couverture de laine jaunie, d'enlever le seau qui me suffoquait et de balayer mon bouge après l'avoir arrosé. Toutes les œuvres du juste milieu étant emportées, je me fis la barbe. Je m'inondai des flots de ma cruche, je changeai de linge. Madame de Chateaubriand m'avait envoyé un petit paquet. Je rangeai sur la planche, au-dessus du lit, toutes mes affaires, comme dans la cabine d'un vaisseau. Quand cela fut fait, mon déjeuner arriva, et je pris mon thé sur ma table bien lavée et que je recouvris d'une serviette blanche. On vint bientôt chercher les ustensiles de mon festin matinal, et on me laissa seul, dûment renfermé. Ma loge n'était éclairée que par une fenêtre grillée, qui s'ouvrait fort haut. Je plaçai ma table sous cette fenêtre, et je montai sur cette table pour respirer et jouir de la lumière. À travers les barreaux de ma cage à voleurs, je n'apercevais qu'une cour, ou plutôt un passage sombre et étroit. Des bâtiments noirs autour desquels tremblotaient des chauves-souris. J'entendais le cliquetis des clefs et des chaînes, le bruit des sergents de ville et des espions, le pas des soldats, le mouvement des armes, les cris, les rires, les chansons dévergondées des prisonniers, mes voisins, les hurlements de Benoît, condamné à mort comme meurtrier de sa mère et de son obscène ami. Je distinguais ces mots de Benoît entre les exclamations confuses de la peur et du repentir. « Ah, ma mère, ma pauvre mère !» Je voyais l'envers de la société, les plaies de l'humanité, les hideuses machines qui font mouvoir ce monde. Je remercie les hommes de lettres, grands partisans de la liberté de la presse, qui naguère m'avaient pris pour leur chef et combattaient sous mes ordres. Sans eux, j'aurais quitté la vie sans savoir ce que c'était que la prison, et cette épreuve-là m'aurait manqué. Je reconnais à cette attention délicate le génie, la bonté, la générosité, l'honneur, le courage des hommes de plume en place, le courage des hommes de plume en place. Mais, après tout, qu'est-ce que cette courte épreuve ? Le Tasse a passé des années dans un cachot, et je me plaindrais ? Non, je n'ai pas le fol orgueil de mesurer mes contradictions de quelques heures avec les sacrifices prolongés des immortelles victimes dont l'histoire a conservé les noms. Au surplus, je n'étais point du tout malheureux. Le génie de mes grandeurs passées et de ma gloire âgée de 30 ans ne m'apparut point. mais ma muse d'autrefois, bien pauvre, bien ignorée, vint rayonnante, m'embrasser par ma fenêtre. Elle était charmée de mon gîte et tout inspirée. Elle me retrouvait comme elle m'avait vue dans ma misère à Londres, lorsque les premiers songes de René flottaient dans ma tête. Qu'allions-nous faire, la solitaire Dupin et moi ? Une chanson, à l'instar de ce pauvre poète Lovelace, qui, dans les geôles des communes anglaises, chantait le roi Charles Ier, son maître. Non. La voix d'un prisonnier m'aurait semblé de mauvais augure pour mon petit roi Henri V. C'est du pied de l'autel qu'il faut adresser des hymnes au malheur. Je ne chantais donc point la couronne tombée d'un front innocent. Je me contentais de dire une autre couronne, blanche aussi, déposée sur le cercueil d'une jeune fille. Je me souvins d'Elisa Frissel, que j'avais vue enterrer la veille dans le cimetière de Passy. Je commençais quelques vers élégiaques d'une épitaphe latine, mais voilà que la quantité d'un mot m'embarrassa. Vite, je saute en bas de l'étable où j'étais juché, appuyé contre les barreaux de la fenêtre, et je cours frapper à grands coups de poing dans ma porte. Les cavernes d'alentour retentirent. Le geôlier monte épouvanté, suivi de deux gendarmes. Il ouvre mon guichet, et je lui crie comme aurait fait Santeuil « Ingradus ! Ingradus !» Le geôlier écarquillait les yeux, les gendarmes croyaient que je révélais le nom d'un de mes complices. Ils m'auraient mis volontiers les poucettes. Je m'expliquais, je donnais de l'argent pour acheter le livre, et on alla demander un gradus à la police étonnée. Tandis que l'on s'occupait de ma commission, je regrimpais sur ma table, et changeant d'idée sur ce trépied, je me mis à composer des strophes sur la mort d'Elisa. Mais, au milieu de mon inspiration, vers 3 heures, voilà que des huissiers entrent dans ma cellule et m'appréhendent au corps sur les rives du Permès. Ils me conduisent chez le juge d'instruction qui instrumentait dans un greffe obscur, en face de ma geôle, de l'autre côté de la cour. Le juge, jeune Robin fat et gourmé, m'adresse les questions d'usage sur mes noms, prénoms, âge, demeure. Je refusais de répondre et de signer quoi que ce fût, ne reconnaissant point l'autorité politique d'un gouvernement qui n'avait pour lui ni l'ancien droit héréditaire, ni l'élection du peuple, puisque la France n'avait point été consultée et qu'aucun congrès national n'avait été assemblé. Je fus reconduit à ma souricière. À 6 heures, on m'apporta mon dîner, et je continuai à tourner et retourner dans ma tête les vers de mes stances, improvisant quand et quand un air qui me semblait charmant. Madame de Chateaubriand m'envoya un matelas, un traversin, des draps, une couverture de coton, des bougies et les livres que je lis la nuit. Je fis mon ménage, et toujours chantonnant, il descend le cercueil et les roses sans tache. Ma romance de la jeune fille et de la jeune fleur se trouva faite. Il descend le cercueil et les roses sans tache, Quimper y déposa, tribut de sa douleur. Terre, tu les portas, et maintenant tu caches, jeune fille et jeune fleur. Ah, ne les rends jamais à ce monde profane, à ce monde de deuil, d'angoisse et de malheur. Le vent brise et flétrit, le soleil brûle et fane, jeune fille et jeune fleur. Tu dors, pauvre Elisa, si légère d'année. Tu ne sens plus du jour le poids et la chaleur. Vous avez achevé vos fraîches matinées, jeune fille et jeune fleur. Mais ton père, Elisa, sur ta tombe s'incline. De ton front jusqu'au sien a monté la pâleur. Vieux chêne, le temps a fauché sur ta racine, jeune fille et jeune fleur. Chapitre 5. Paris, rue d'Enfer, fin de juillet 1832. Passage de ma loge de voleur au cabinet de toilette de Mademoiselle Gisquet. Achille de Harlay. Je commençais à me déshabiller. Un bruit de voix se fit entendre, ma porte s'ouvre, et monsieur le préfet de police, accompagné de M. Ney, se présente. Il me fit mille excuses de la prolongation de ma détention au dépôt. Il m'apprit que mes amis, le duc de Fitz-James et le baron Hyde de Neuville, avaient été arrêtés comme moi, et que, dans l'encombrement de la préfecture, on ne savait où placer les personnes que la justice croyait devoir interpeller. « Mais, ajouta-t-il, vous allez venir chez moi, monsieur le vicomte, et vous choisirez dans mon appartement ce qui vous conviendra le mieux. » Je le remerciai et je le priai de me laisser dans mon trou. J'en étais déjà tout charmé, comme un moine de sa cellule. Monsieur le préfet se refusa à mes instances et il me fallut dénicher. Je revis les salons que j'avais quittés depuis le jour où monsieur le préfet de police de Bonaparte m'avait fait venir pour m'inviter à m'éloigner de Paris. Monsieur Gisquet et madame Gisquet m'ouvrirent toutes leurs chambres en me priant de désigner celle que je voudrais occuper. Monsieur Ney me proposa de me céder la sienne. J'étais confus de tant de politesse. J'acceptai une petite pièce écartée qui donnait sur le jardin et qui, je crois, servait de cabinet de toilette à mademoiselle Gisquet. On me permit de garder mon domestique qui coucha sur un matelas en dehors de ma porte à l'entrée d'un étroit escalier plongeant dans le grand appartement de madame Gisquet. Un autre escalier conduisait au jardin, mais celui-là me fut interdit, et chaque soir on plaçait une sentinelle au bas contre la grille qui sépare le jardin du quai. Madame Gisquet est la meilleure femme du monde, et mademoiselle Gisquet est très jolie et fort bonne musicienne. Je n'ai qu'à me louer des soins de mes hôtes. Ils semblaient vouloir expier les 12 heures de ma première réclusion. Le lendemain de mon installation dans le cabinet de mademoiselle Gisquet, je me levai tout content en me souvenant de la chanson d'Anacréon sur la toilette d'une jeune grecque. Je mis la tête à la fenêtre, j'aperçus un petit jardin bien vert, un grand mur masqué par un vernis du Japon. À droite, au fond du jardin, des bureaux où l'on entrevoyait d'agréables commis de la police comme de belles nymphes parmi des lilas. À gauche, le quai de la Seine, la rivière et un coin du vieux Paris dans la paroisse de Saint-André-des-Arcs. Le son du piano de mademoiselle Gisquet parvenait jusqu'à moi avec la voix des mouchards qui demandaient quelques chefs de division pour faire leur rapport. Comme tout change dans ce monde! Ce petit jardin anglais romantique de la police était un lambeau déchiré et biscornu du jardin français, à charmilles taillées au ciseau, de l'hôtel du premier président du Parlement de Paris. Cet ancien jardin occupait en 1580 l'emplacement de ce paquet de maisons qui borne la vue au nord et au couchant, et il s'étendait jusqu'au bord de la Seine. Ce fut là qu'après la journée des barricades, le duc de Guise vint visiter Achille de Harlay. Guillemet. Il trouva le premier président qui se pourmenait dans son jardin, lequel s'estonna si peu de sa venue qu'il ne daigna seulement pas tourner la tête ni discontinuer sa promenade commencée, laquelle, achevée qu'elle fût, et étant au bout de son allée, il retourna, et en retournant il vit le duc de Guise qui venait à lui. Alors ce grave magistrat, haussant la voix, lui dit « C'est grand pitié que le valet chasse le maître. Au reste, mon âme est à Dieu, mon cœur est à mon roi, et mon corps est entre les mains des méchants. Qu'on en fasse ce qu'on voudra. » Fin des guillemets. L'Achille de Harlay, qui se pourmène aujourd'hui dans ce jardin, est M. Vidocq, et le duc de Guise, Coco Lacour. Nous avons changé les grands hommes pour les grands principes. Comme nous sommes libres maintenant. Comme j'étais libre, surtout à ma fenêtre, témoin ce bon gendarme en faction au bas de mon escalier, et qui se préparait à me tirer au vol s'il m'eût poussé des ailes. Il n'y avait pas de rossignol dans mon jardin, mais il y avait beaucoup de moineaux, fringants, effrontés et querelleurs que l'on trouve partout, à la campagne, à la ville, dans les palais, dans les prisons, et qui se perchent tout aussi gaiement sur l'instrument de mort que sur un rosier. À qui peut s'envoler, qu'importent les souffrances de la terre?